Pour ceux qui sont encore debout, je vous invite à prendre place. Il y a des sièges en masse. S'il en manque, on va en rajouter. Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette séance publique de votre conseil municipal. Si je compte bien, la 9e sur 48. Ça avance. Fait que, comme d'habitude, je vais commencer la séance par le mot du maire. Et après ça, on va passer à l'ordre du jour, la séance proprement dite. Mais le mot du maire fait partie de la séance, c'est toujours inclus au procès-verbal des rencontres. Fait que si vous voulez jamais avoir une copie de ce que je présente en début de rencontre, sur le site web de la municipalité, dans le procès-verbal, vous avez accès à ça. Fait que ce soir, j'aimerais ça vous parler de trois choses en introduction à notre rencontre. J'aimerais ça vous parler d'une séance extraordinaire que le Conseil a dû tenir le 10 juin dernier. J'aimerais ça vous parler d'une décision concernant la poursuite de la démarche du projet de paysage humanisé. Et finalement, je voudrais donner des détails sur où on en est, un état de situation, pour ce qui est de l'approvisionnement en eau potable dans le secteur de la montagne. Parce que il y a eu beaucoup, beaucoup de développement dans les derniers mois. Puis, je vais vous présenter de l'information, puis surtout vous dire ce vers quoi on se dirige, puis c'est quoi les échéanciers. Donc, pour ceux qui ne savent peut-être pas, notre directrice générale est en congé maladie prolongé pour des raisons de santé graves. Elle a subi une chirurgie, mais ça va mieux. Les pronostics sont bons, mais elle va s'absenter pour encore quelques mois. Fait que on a décidé comme conseil, on avait offert le poste de DG intérimaire à Marie-Pierre qui est la directrice générale adjointe, responsable de l'administration. Marie-Pierre n'en voulait pas, elle n'a jamais voulu avoir cette job-là, mais elle a accepté de remplacer Anne-Claude temporairement. Et je pense que ça a été un peu difficile pour ses nerfs, fait que elle a dû prendre un congé maladie, elle aussi. Elle est partie au bout de 2 semaines. Fait que, comme conseil, quand on a pris connaissance de ça, et surtout quand on a constaté l'état d'esprit des employés, parce que, veux pas, c'est des départs qui affectent tout le monde. Alors, c'est des gens, ceux qui sont responsables de la gestion quotidienne de la municipalité, puis ils sont occupés. Quand on a vu ça, on a décidé de réagir. On a réagi très vite. On a passé un contrat avec la FQM qui offre un service de placement de gens qui ont déjà servi dans la fonction publique municipale, qui sont à la retraite et qui veulent donner un coup de main une fois de temps en temps. Fait qu'ils ont créé une banque de candidats qui sélectionnent eux-mêmes. Ces gens-là doivent donner des références, ils sont interviewés, puis quand ils font partie de la banque de données, ils nous les réfèrent. Pour avoir accès à ce service-là, il fallait signer un contrat avec la FQM. Pour signer un contrat avec la FQM, comme ce n'était pas au budget, il a fallu faire une séance extraordinaire le 10 juin. On s'est réuni le conseil, on a pris la décision d'octroyer le contrat. Et très rapidement, dans la même semaine, on a reçu 2 candidatures, mais on a passé une entrevue seulement. On a rencontré Pierre Beauséjour, qui a rencontré toutes nos espérances, même plus, pour un remplacement temporaire. Pierre a déjà été directeur général d'une petite municipalité à peu près comme la nôtre, là, à Grande-Pile, pendant 10 années. Ensuite de ça, il a été directeur général à Saint-Roch-de-Miquinac, avant que le diable poigne.
Oui, il faut spécifier.
Oui, je savais que tu apprécierais.
Oui, merci.
Mais préalablement à ça, Pierre, c'est un pompier. Il a été chef du service de l'incendie de la ville de Drummondville, entre autres. C'est lui qui a bâti la régie des incendies pour Berthierville et ses voisines, ou seulement Berthierville?
C'est la régie incendie Berthierville, donc avec 3 municipalités, oui.
Avec 3 autres municipalités. Fait que c'est un gars qui a beaucoup d'expérience dans le monde municipal. On s'est entendu sur des conditions de travail assez rapidement, puis Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que le remplacement d'Anne-Claude, puisqu'Anne-Claude est sur l'assurance, le remplacement d'Anne-Claude se fait à l'intérieur des budgets de personnel qu'on a à la municipalité. Okay? Ça fait qu'il n'y a pas de dépenses supplémentaires. Alors, il y a des conséquences à la venue de Pierre. Une, entre autres, c'est que pour assurer une continuité puis nous permettre de fonctionner le mieux possible puis faciliter l'arrivée de Pierre, puis on va passer des résolutions ce soir pour mettre ça en place, on a proposé à Joanne de demeurer greffière de la municipalité et Pierre va devenir DG trésorier. Fait qu'on a séparé la tâche de la greffe du poste de DG. Joanne, c'est notre encyclopédie sur deux pattes, hein? Elle connaît toute l'histoire du village, de la municipalité, ça fait que je trouvais ça bien qu'on la tienne proche de nous, au conseil, puis pendant les séances publiques. Puis ce faisant, bien, ça facilite un peu la job de Pierre, qui lui aussi va assister à toutes les rencontres. Ça fait que, on a quelques résolutions à passer ce soir qui sont à l'ordre du jour. Maintenant, là, on va parler un peu du paysage humanisé. Comme vous le savez, l'ancien conseil avait intégré la volonté d'instaurer à Saint-Mathieu-du-Parc, sur l'ensemble du territoire privé, un statut de paysage humanisé. Pour ce faire, le plan d'urbanisme avait été modifié. Le plan d'urbanisme, c'est un règlement, donc. C'était une modification réglementaire qui avait été faite le 4 décembre 2023. Il y avait rajouté une section au plan d'urbanisme qui décrivait le pourquoi, qui présentait le paysage humanisé comme étant un outil adéquat pour atteindre l'objectif de protéger la biodiversité, de s'adapter au changement climatique à Saint-Mathieu-du-Parc. Dans le plan d'urbanisme tel que modifié, il y avait la provision de tenir des consultations publiques mais à l'aboutissement de la démarche, et non pas au départ. Il y a eu beaucoup d'efforts de faits par l'ancien conseil pour faire des séances d'information, présenter le projet, mais il n'y avait jamais eu de consultation selon les règles de l'art, et ça a été fait, c'était prévu d'être fait à la fin, lorsque la demande de statut de reconnaissance serait faite sur quelque chose qui serait présenté au gouvernement du Québec. Comme vous le savez aussi, le conseil actuel, on s'est engagé dès le départ, au mois de novembre, à tenir des consultations maintenant pour savoir où loge la majorité, qu'est-ce que les gens veulent par rapport au paysage humanisé à Saint-Mathieu-du-Parc. On le fait. On le fait du mieux qu'on pouvait. Je l'ai déjà dit, je le répète, j'ai une certaine expertise en consultation publique. J'en ai fait à la grandeur du pays pendant une quinzaine d'années. Fait que, on a essayé d'adapter la procédure avec l'aide d'un comité citoyen, vous en souviendrez. On a travaillé là-dessus au mois de février. Puis on a mis en place une procédure qui nous apparaissait respecter les règles de l'art. Les consultations ont eu lieu le 30 et 31 mai dernier, encore comme vous le savez. On a même rajouté un deuxième meeting, puisque la popularité du premier dépassait la capacité ici de la salle. Fait que on a eu, si ma mémoire est bonne, là, sur deux jours, on a eu 162 participants. Moi, je qualifierais le ton de ces journées-là comme ayant été cordial. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu trop, en tout cas à peine, d'agressivité, ni d'un côté ni de l'autre. Il y a eu beaucoup d'opinions qui ont été exprimées, des vues sur le sujet en opposition. On avait un camp du pour et un camp du contre, mais chaque camp a eu l'opportunité de présenter sa vision du projet, les avantages, les inconvénients. Il y a eu des questions qui ont été répondues à plusieurs reprises. Bref, moi, j'ai trouvé que ces journées-là s'étaient faites dans un bon esprit et que ça avait permis d'avoir des bons échanges sur le sujet. Lors des deux, la municipalité, on ne l'a pas publié officiellement là, dans une communication sur les réseaux. On n'a pas de reflet de ce temps-ci non plus, là, mais Je pense que ça a été très popularisé dans les journaux et sur les réseaux sociaux par d'autres, que les participants à ces journées-là ont voté aux deux tiers contre la poursuite du projet de paysage humanisé. Après plusieurs heures de discussion, le Conseil actuel en est arrivé à la conclusion dans sa très grande majorité, pas à l'unanimité, mais dans sa très grande majorité, on est arrivé à la conclusion que si on faisait des consultations supplémentaires, si on continuait à consulter, si on demandait aux gens au travers d'un sondage, d'un vote électronique, etc., on est convaincu que ça ne changerait pas substantiellement le résultat qu'on a obtenu lors des consultations du 30 et 31 mai dernier. On doit reconnaître le fait que ce sujet-là a divisé la population au cours des trois dernières années, surtout la dernière, mais il y a eu beaucoup de discussions, fortes. Malgré toute l'information qui avait été donnée par l'ancien conseil, malgré toute l'information qui a été donnée par le nouveau conseil lors de la préparation des consultations et pendant les consultations, on est arrivé à la conclusion que ce projet-là n'avait pas assez de soutien, il ne rassemblait pas assez la population pour qu'on aille de l'avant. On pense que si on embarque encore dans d'autres consultations, dans des travaux touchant ça, on va perdurer, on va se ramasser dans un environnement qui est divisif, qui ne rassemble pas les gens pour les 3, 4, 5 prochaines années. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que je ne voyais pas beaucoup d'avantages au paysage humanisé, personnellement, je ne parle pas au nom du conseil, là. Basé sur mon expérience, ma formation, je ne voyais pas beaucoup d'avantages. Mais que si la population décidait d'aller de l'avant, j'allais me rallier, puis je l'aurais fait. Mais ce qu'on a constaté dans les derniers mois, surtout depuis un mois, après les consultations, on s'est dit, ce que ça nous prend, si on va atteindre tous ensemble l'objectif de protéger notre environnement, notre milieu naturel, c'est un projet rassembleur, et non pas un projet diviseur. Fait que, même si on était embarqué pendant des années dans des discussions, on ne voyait pas comment le projet de paysage humanisé pourrait rallier une forte majorité de la population. Puis ce genre de projet-là, avec les conséquences que ça a sur notre municipalité, la façon dont on gère le bien public à Saint-Mathieu, la façon dont on gère la protection de l'environnement, on ne voyait pas qu'il y aurait une majorité importante qui se rallierait alentour du projet. Un projet comme ça, là, ça ne prend pas 50 % plus un qui se rallie. Comme ça a des conséquences importantes, c'est comme quand on parle de modifier une constitution ou de modifier une loi cadre d'un État, on essaye d'aller chercher plus que 50 % plus un. Souvent, on demande 60 % ou les deux tiers des votes qui supportent un changement comme ça. Fait qu'on ne voyait pas comment on pourrait y arriver. Alors, en conséquence, ce soir, la municipalité de Saint-Mathieu va mettre fin à la démarche d'obtention du statut de paysage humanisé. Ceci étant dit, ça implique quoi pour nous autres? Ça implique qu'il va falloir qu'on modifie le plan d'urbanisme par processus réglementaire, de modification réglementaire. Puis ça ne se fait pas sans consultation. Des consultations réglementaires. Et nous autres, comme conseil, on ne veut pas s'arrêter là. Parce qu'on n'a peut-être pas senti une majorité de gens qui se ralliaient derrière le projet de paysage humanisé, mais on s'est certainement rendu compte que la très grande majorité des gens qui vivent à Saint-Mathieu ont à cœur la protection de l'environnement. Puis comme municipalité, on n'a pas grand-chose. On n'a pas de politique cadre, on n'a pas de plan de développement durable ou de plan de développement économique durable. On n'a rien. Fait que quand on va modifier dans les prochains mois, quand on va modifier le plan d'urbanisme pour enlever l'objectif du paysage humanisé, on va se donner une nouvelle approche qui va nous permettre d'atteindre cet objectif-là, de protéger la biodiversité et de s'adapter mieux comme municipalité au changement climatique. Pour faire ça, il y a toutes sortes d'outils qui s'offrent à nous autres. Il y a des outils, de, par exemple, une politique cadre. Puis moi, je parle de ça, là, puis pour moi, ça résonne, parce que j'ai travaillé toute ma vie là-dedans. Mais vous savez, dans le fonctionnement d'un gouvernement, puis une municipalité, c'est un gouvernement, une politique, ça a encore plus d'importance qu'un règlement. Une politique cadre qui définit la façon dont on va autoriser le développement durable à Saint-Mathieu-du-Parc, ça superpose, ça détermine toute la réglementation qui va être mise en place. La réglementation, c'est comme le moyen de mettre ça en œuvre, et la politique, c'est comme l'objectif. Fait que dans une politique, vous avez des principes directeurs qu'on doit suivre, comme par exemple que nos interventions doivent être basées sur la science, que le développement durable, c'est une valeur qui est partagée par les citoyens. Et quand on a une politique comme ça, il faut s'assurer que toute notre réglementation corresponde, fit dans le décor, pour parler en bon québécois. Ça fait qu'on va s'atteler, votre conseil, à travailler là-dessus, à mettre ça en place, mais on ne le fera pas tout seul, puis ça va être adopté lors de consultations qu'on avait promis. On ne sait pas encore si on va inclure ce sujet-là à l'automne dans les services rendus aux citoyens, hein, les services concrets, où on va attendre la prochaine consultation qui va aller au printemps 2027 sur le développement durable qu'on avait prévu. Ça fait que, on ne sait pas encore si on va tout fusionner ça à l'automne ou séparer ça en deux sessions, là, mais on va le faire. Puis on ne le fera pas en vase clos, on va le faire en vous en parlant continuellement, puis en étant certain que ce qu'on veut mettre en place, une forte majorité de Saint-Mathieu-Sois, de Mathieu-Saint-Ois, vont le supporter. Finalement, je voulais vous parler de l'approvisionnement en eau dans le secteur de la montagne, parce que c'est important. Vous vous souviendrez, pas longtemps après les élections, on avait adopté ici en conseil, si ma mémoire est bonne, c'était en janvier, on avait adopté, on s'était donné le pouvoir d'aller en soumission pour recevoir, on est allé en appel d'offres pour recevoir des soumissions de contracteurs pour faire les derniers travaux qui sont nécessaires pour s'assurer qu'à la montagne, on va avoir de l'eau potable de qualité et en masse, en volume important pour les prochaines années. On voulait utiliser une subvention qu'on a, des argents publics qui sont disponibles au travers de la TEC qu'on appelle, qui est le retour de taxes d'assises que le gouvernement provincial nous renvoie à chaque 3 ans. Dans la TEC, il nous restait 930 quelques mille $. On est allé en soumission en espérant qu'on allait recevoir des... On est allé en appel d'offres, pardon, en espérant qu'on allait recevoir des soumissions qui allaient être en deçà de la TEC du montant qu'on avait disponible. Ça n'a pas été le cas. Premièrement, on a reçu... On s'attendait à avoir plusieurs soumissions, on en a eu seulement 2. Et une à 1,2 million, puis une à 1,1 million. Ça fait qu'on était, grosso modo, 200 000 $ au-dessus de nos moyens. Il fallait penser à règlement d'emprunt, etc. Ça fait qu'avant de s'embarquer dans ce scénario-là, on s'est mis à réfléchir toute la gang avec l'aide de spécialistes, des ingénieurs, des firmes d'ingénieurs, mais surtout des hydrogéologues. Et on a examiné quel autre scénario pouvait s'offrir à nous. Puis là, on a découvert une couple de choses. On a découvert, par exemple, que ce qu'on appelle le puits numéro 3, qui est à la base de la montagne du Mont-Saint-Mathieu, juste devant l'auberge, là. Lui, la qualité de l'eau, on le savait, là, elle ne rencontre pas les normes provinciales d'eau potable. Sur un aspect, les fluorures, qui dépassent légèrement la norme maximale autorisée. Fait que la solution qui avait été développée, non seulement par le dernier conseil, mais même avant ça, parce qu'il y a eu des petits investissements sur ce puits-là qui ont été faits depuis de nombreuses années, la solution qui avait été proposée, c'était de prendre cette eau-là du puits numéro 3, dont le volume est important, on a en masse, on a le double de ce qu'on a besoin pour approvisionner tout le monde. Mais elle n'est pas bonne. Fait qu'on l'a montée en haut de la... Elle n'est pas bonne pour un critère, les fluorures. Fait qu'on l'a montée en haut de la montagne au puits numéro 1, qu'on appelle d'où l'eau potable part... Toute l'eau potable donnée aux 60 résidents dans ce coin-là part d'en haut, puis elle descend, elle passe en avant, on a une ligne d'eau là, qui passe en avant de l'auberge, puis qui s'en va jusqu'au bout du chemin des cantons, du canton, presque au bout. On la montait en haut, on la mélangeait avec l'eau du puits numéro 1, là on descendait la norme en deçà de la limite, puis là on avait de l'eau en masse pour tout le monde. Mais ça coûtait cher. Fait que là, on a découvert 2 choses. Premièrement, que le puits numéro 3, il ça pourrait être possible que si on pompait moins d'eau qu'on a pompé lorsqu'on a fait les tests de pompage il y a longtemps, si on pompait moins d'eau, possiblement que les fluorures, c'est moins important. Et si c'est le cas, au lieu de pomper 75 litres minute, là, on en pompait 30, mettons, on descendrait en dessous des normes. Puis là, au lieu d'avoir à monter l'eau jusqu'en haut de la montagne, on pourrait la brancher tout de suite dans la ligne à 100 pieds. Puis là, on a aussi réévalué le puits numéro 2. Le puits numéro 2, c'est un puits qui a été bâti en 2010 au bout du chemin des Cantons, qui est direct sur le bord du chemin. Puis lui, il y a du volume, selon les tests de pompage qui ont été faits il y a longtemps, le volume d'eau disponible à ce puits-là est l'équivalent de la consommation totale actuelle du secteur. Fait qu'il y a de l'eau en masse, selon les hydrogéologues qui nous ont donné les rapports qu'ils avaient faits à l'époque. L'eau est parfaite, condition parfaite. Mais lui aussi, il a son petit problème. Parce que comme il est bâti directement sur le bord du chemin, ça prend une zone de protection autour d'un puits d'eau potable pour une population. Puis comme il est direct sur le bord du chemin, on ne l'a pas, la zone de protection. Fait que là, on pourrait l'avoir, parce qu'il y a une exemption, une dérogation possible en fonction du règlement du ministère de l'Environnement. Mais pour l'avoir, il faut démontrer que les eaux d'écoulement qui contiennent, par exemple, les sels qu'on met en hiver dans le chemin du canton, ne se rendent pas à l'aquifère dans lequel on va pomper, qui est dans le roc, qui est très profond. Je pense, si ma mémoire est bonne, c'est au-dessus de 400 pieds, le puits qui est profond. Puis il y a à peu près 70 % de roche au-dessus, ou de sable au-dessus de ce roc-là. Fait que, il faut faire des tests pour s'assurer que l'écoulement s'en va vers la rivière Shawinigan. Si c'est le cas, on va pouvoir avoir une dérogation, se servir de ce puits-là, puis on peut le brancher à la ligne d'eau potable du secteur de la montagne à 25 pieds. Dans les deux cas, les branchements des puits numéro 3 et le puits numéro 2, ça va coûter au maximum la moitié de ce qu'aurait coûté monter l'eau du puits numéro 3 en haut de la montagne. Fait qu'on part d'un budget autour de 1 million, puis on descend à 500 000. Ce soir, on va voter des résolutions pour donner des petits contrats pour vérifier tout ça à la firme Arrakis. On y va en parallèle, parce que si jamais les deux puits sont bons, on va choisir un des deux, puis on va en avoir un autre en backup, au cas où on aurait des problèmes. Fait que, si on avait fait le projet tel que prévu, là, on aurait eu un supplément d'eau potable à la montagne cet automne, si on avait fait le 1,2 million, là. Monter l'eau en de la montagne. Là, il est encore possible, pas très, très probable, mais il est encore possible que si on a des bonnes nouvelles sur un des deux autres puits, on soit capable de brancher ça avant l'hiver 2026. Mais si jamais ce n'est pas le cas, ça sera facilement faisable en 2027. Fait qu'on rallongerait au maximum de quelques mois la solution permanente au problème d'eau potable à la montagne. Alors, je vais m'arrêter là, puis comme d'habitude, je vais offrir aux gens présents ici de poser des questions, s'ils le souhaitent, sur un des trois sujets que je viens de couvrir.
François Bruno, Lac-Goulette. À la suite du refus de continuer Paysages humanisés, vous parlez d'un projet rassembleur. Avez-vous une idée de ce que ça peut être?
Ben, je l'ai mentionné, François. On parle de politique avec des règlements qui en découlent, qui sont faits non pas en vase clos, mais avec des portes ouvertes, en consultant les gens. Alors, si, pour être conséquent avec ce que j'ai dit, si je vous disais, voici ce qu'on va faire, 1, 2, 3, 4, j'aurais l'air de quoi? On ne veut pas mettre la table, nous autres. On va en parler. On va en parler régulièrement. On va en parler pendant les séances de conseil, puis on va faire des consultations officielles sur le projet rassembleur. Puis en intégrant les vues, les perspectives de tout le monde dès le départ, je pense qu'on va arriver à rassembler les gens dans un projet comme ça. Une autre question?
Carole Beaulieu, Saint-Mathieu-du-Parc. C'est justement sur le sujet numéro 2. Votre dernière slide qui est identifiée comme étant ce que ça implique. Ma question, c'est évidemment le cadre réglementaire actuellement implique certaines difficultés pour certaines personnes qui pourraient avoir des projets, qui voudraient se construire. Ma question, c'est est-ce que cette épée de Damoclès-là pourrait être levée sur la base d'une suspension réglementaire, au moins pour permettre aux gens qui veulent faire quelque chose de pouvoir le faire, plutôt que finalement d'être pris pendant 6, 8 mois, 1 an encore à attendre quels seront les développements et quelles seront les positions?
J'avoue qu'on n'a pas eu cette discussion-là au Conseil. Si j'avais à vous donner ma vue personnelle là-dessus, je serais plutôt d'avis qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Des projets qui sont contrecarrés par certains règlements qui ont été mis en place en vertu du projet de paysage humanisé, on me dit à l'administration qu'on n'a pas des dizaines de gens qui sont venus se plaindre là, parce qu'ils ne pouvaient pas. On a quelques-uns. La révision de ces règlements-là va faire nécessairement partie de la nouvelle approche, parce qu'il va falloir qu'on s'assure que les modifications réglementaires qui ont été faites respectent les principes directeurs qu'on va mettre dans la politique. Puis un de ces principes-là, ça va être « tout doit être démontré par la science ». Si on a l'objectif de protéger l'environnement en mettant une mesure précise, comme la marge de recul, par exemple, qui empêche les gens de se construire dans la zone de 10 mètres, là, sur les côtés, si on arrive à la conclusion que il n'y a pas de science qui soutient cette approche-là, on pourrait la modifier. Mais les gens... C'est parce que si on se met à modifier des règlements maintenant sans avoir une idée précise de l'objectif qu'on va se donner dans le cadre d'une politique cadre, je trouve que c'est contre-productif. Fait que je vais demander aux gens qui ont des projets, là, d'être peut-être... qui auraient des projets dans un futur rapproché, de peut-être être un petit peu patient. Là.
Et est-ce qu'il n'y a pas un moratoire sur, justement, les terrains qui sont près d'un cours d'eau, qui impose un no man's land pour la construction?
Non. Il y en a eu un en 2024, qui était règlement de contrôle intérimaire, qui a commencé, je pense, qui disait pas de construction à moins de 200 mètres d'un milieu humide ou d'un cours d'eau, ce qui faisait que c'était un moratoire en théorie, en pratique surtout, là. Après ça, ça a été descendu à 50 mètres, si ma mémoire est bonne. Et quand le règlement 2024-05 a été adopté en juillet 2024, là, ce règlement intérimaire-là a disparu. Ça fait qu'il n'y a pas de moratoire, là. Il y a juste, par exemple, la contrainte majeure qu'on voit, là, c'est la marge de recul de 10 mètres supplémentaires à la bande riveraine qui a été imposée dans le 2024-05. Puis nous, comme conseil, on n'a pas encore décidé ce qu'on fera avec ça. Ça fait que, encore là... Là, c'est Éric Gilbert personnel qui parle, parce qu'on n'a pas parlé de ça, le Conseil. Mais moi, je considère qu'il serait prématuré de commencer à mettre des moratoires sur des règlements existants sans savoir où on s'en va exactement.
Est-ce qu'on peut dire en corollaire que vous encouragez les gens, que ça pénalise ou qu'il y aurait des projets d'aller en parler à la municipalité? Comme ça, ils vont avoir un peu plus de statistiques.
Moi, j'aimerais qu'on parle des vraies choses. On ne peut pas parler de la science. Il n'y a pas de science qui tienne, parce que la science, c'est toujours quelque chose qui a été contredit par la science qui a suivi. Étudiez l'histoire des sciences, si vous voulez. Parlons donc d'études qui tendent à démontrer certaines réalités, mais la science, ça paraît quelque chose comme un bon Dieu, là, dans votre discours, puis dans le discours de certains ici qui nous disent, par exemple, que les castors sont 40 % responsables de la pollution de l'eau, que, etc., etc. C'est pas ça, la science. Ça, il faut parler d'études. Il faut parler d'études.
Les scientifiques ne disent jamais des niaiseries pareilles, monsieur. Des études scientifiques qui tendent à démontrer que ça vous satisfait? Parce que les études sont scientifiques, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ce cas-là, on va passer maintenant à notre ordre du jour de la séance publique ordinaire. Alors, je pense que vous en aviez une copie à l'entrée. J'ai quand même deux changements à vous annoncer sur l'ordre du jour que vous avez reçu, qui a été publié jeudi dernier, l'ordre du jour. Le premier changement, c'est que vous avez à l'ordre du jour le point 6.4, qui prévoyait une résolution pour me donner l'autorité de signer une servitude. On l'a enlevé parce qu'en fait, il y avait, c'est comme une, on a oublié de l'enlever. On l'a fait il y a 2 mois. On l'a la servitude. On a l'autorité de signer la servitude. Et puis, on va rajouter au point 13.1 sur autre sujet, comme un ordre du jour nous le permet toujours. On va rajouter le sujet d'une étude qu'on va mandater une firme de consultants de faire pour nous proposer une approche d'aménagement du parc municipal ici là, qui va inclure tout, okay? Qui va nous présenter une vision globale de ce qu'on pourrait faire, mais pas cette année ou l'année prochaine, pour les prochaines années. Je vais vous donner plus de détails un peu quand on viendra le temps de la résolution. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui couvre tous les points habituels, là, comme l'approbation des comptes soumis, l'urbanisme, les travaux publics, etc. Autre sujet, je viens de rajouter un point. Alors, dans un premier temps, je vais avoir besoin d'un conseiller ou une conseillère qui va nous proposer l'adoption de l'ordre du jour.
Propose.
Yves nous propose ça. Est-ce que, Louis, l'ordre du jour te va?
Oui, je suis d'accord.
Louise?
Oui.
André?
Oui.
Michel?
Oui.
Barthélémy?
Oui.
Merci. On a 2 procès-verbaux à approuver, celui de la séance du 1er juin et celui de la séance extraordinaire du 10 juin. On les a tous reçus, nous, on les a lus. Qui nous propose l'approbation de l'ordre du jour? Pardon. Du procès-verbal de la réunion régulière du 1er juin. André, tu fais ça? Louise, ça te va?
Oui.
Louis?
Oui, d'accord.
Yves?
Oui.
Michel?
Oui.
Barthélémy?
Oui.
Maintenant, on va faire celui du 10 juin pour la séance extraordinaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été très brève, a été productive au bout. On avait 2 sujets, ça a duré 10 minutes. Bing, bang, décision. Fait que tout ça, ces procès-verbaux-là, sont disponibles sur le site web de la municipalité. Vous allez dans l'onglet « Séances publiques et consultations », vous avez accès à toute l'information. Alors, qui nous propose l'adoption du 10 juin, du procès-verbal du 10 juin? Barthélémy? Michel, ça te va?
D'accord.
Yves?
Oui.
André?
D'accord.
Louise?
D'accord.
Et Louis?
Oui, je suis d'accord. Juste rajouter un petit point, les procès-verbaux sont disponibles une fois qu'ils sont approuvés.
Oui, 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 ils vont être disponibles au courant de cette semaine. Non, mais sur le site web, ils vont être mis incessamment, par Katia. Quand on en approuve, ceux qu'on approuve vont être là cette semaine. On a eu encore une fois, puis je vous disais, ça devient comme la norme là, dans les derniers mois, on a eu beaucoup, beaucoup de correspondances parce qu'il y a beaucoup de sujets qui voyagent d'une municipalité et d'une MRC à l'autre, puis tout le monde cherche l'appui de tout le monde. Fait qu'on a eu encore beaucoup de communications qui nous sont venues de municipalités comme Saint-Élie-Caxton, beaucoup d'appui demandé pour le programme fédéral d'emploi-été, le maintien de Postes Canada. Des programmes comme le programme d'aide à la voirie locale, dont des modifications ne plaisent pas à certaines municipalités, etc. Est-ce que vous avez la liste? Je pense que oui. Je vais vous dire honnêtement, là, quand une MRC demande le support des autres MRC, puis que la MRC de Masquinongé, sur laquelle je siège, décide d'appuyer ça, on en fait une résolution. Personnellement, je ne vois pas le besoin que la municipalité en fasse autant. Okay? Quand la MRC a pris position sur un sujet comme, si ma mémoire est bonne, je pense qu'on a passé une résolution d'appui pour le programme d'emploi été Canada, par exemple. Alors, même si d'autres municipalités nous demandent de faire une résolution, quand la MRC le fait, puis il y a déjà comme ma signature comme maire là-dessus avec les 16 autres maires de la MRC, je considère que c'est suffisant. Fait que, sans ça, on serait en train de faire des résolutions d'appui qui duraient 3/4 du meeting. Fait que Il y a eu des communications dans du réseau Biblio, des distinctions qui ont été offertes à certaines municipalités de la MRC, comme par exemple Saint-Étoire de Masquinongée. Et une que je voudrais vous signaler, c'est que l'Auberge Saint-Mathieu nous a demandé officiellement de réfléchir à comment on pourrait aménager le chemin principal dans leur coin. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, là, mais ils ont acheté la maison d'en face avec un grand terrain, puis ils veulent en faire un stationnement en partie. La maison va devenir le logement des employés, de certains employés. Et ils veulent agrandir le stationnement de la maison pour débloquer le chemin principal pour qu'on n'aille plus les jeudis, vendredis puis samedi soir des autos qui sont stationnées de chaque côté. Fait que vous pensez bien que la municipalité va être réceptive à ce genre de trucs-là. Ils nous ont demandé de diminuer la vitesse jusqu'au pont, de passer de 50 à 40, pas comme dans le village, on est à 30, mais en tout cas, diminuer la vitesse, et d'instaurer un passage piéton entre le stationnement qu'ils vont bâtir et l'auberge. Fait qu'on va regarder ça. Il n'y a aucune décision de prise, là, mais on va regarder ça sérieusement. Je pense que leurs demandes sont légitimes. C'est une question à la limite de sécurité. Alors, on serait rendu au compte, la liste de nos comptes, la liste des déboursés et la liste des comptes à payer. Fait que il y a des gros montants qui sont payés ce mois-ci. Par exemple, on a payé la moitié de la facture des services de la Sûreté du Québec, au montant de 139 000 $ grosso modo. Et on paye aussi, dans les listes des comptes à payer, là, on paye, si ma mémoire est bonne, au-dessus de 200 000 $ qui est le montant total versé à Enercycle pour la vidange des fosses septiques. Ce qui fait que ce mois-ci, on a quasiment, on a 600 000 $ de comptes à payer. En plus de tous les comptes standards, là, les salaires, etc., alors, je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on approuve ces comptes-là.
Pas sur les comptes comme tels, juste sur la procédure. Je pense que M. Beauséjour n'est pas encore trésorier, hein, en termes de vos résolutions adoptées.
Il va l'être dans 10 minutes.
Oui, mais moi, je pense que vous devriez faire un switch.
Ben,
de le rendre, parce qu'il va devoir, certifier la disponibilité des crédits à un certain moment. Là.
Mais c'est parce que Joanne est trésorière.
Ah, OK.
Hein? Moi, je considère qu'une femme, c'est aussi bon qu'un homme.
Elle va être greffière. Elle est trésorière jusqu'à temps qu'on change.
C'était ça ma question aussi.
Au moment où on se parle, elle est trésorière. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous qu'on on attende... Oh oui, on a quelqu'un en poste. On va passer une résolution tantôt donnant le titre de trésorier à Pierre, mais aussi l'autorisant à signer les chèques de la municipalité. Ça fait que c'est lui qui va tout signer demain, là. Mais pour le moment, Joanne, es-tu capable de me dire, on a-tu assez d'argent de compte pour payer ça, ces comptes-là?
Ben oui.
Merci. Oh là, merci. Qui nous propose l'adoption des comptes à payer? Michel, fais ça. Barthélémy, ça te va?
Oui.
Yves?
Oui.
André?
D'accord.
Louise?
Oui.
Louis?
Oui.
Merci. Alors, on est rendu justement en gestion financière et administrative, le point 6 à l'ordre du jour, 6.1. Comme vous le saviez peut-être, notre réceptionniste s'est blessée sérieusement en sortant du bureau l'hiver dernier. Elle a glissé puis elle s'est fait un mal au dos. Heureusement, elle a commencé à revenir travailler progressivement dès la semaine dernière. Elle a déjà une couple de jours de fait. Mais il y a deux semaines, avec le bureau qui se vidait, on n'a pas pris de chance. On a demandé à Sylvie
Desaugniers,
qui connaît très bien notre municipalité, de venir donner un coup de main à réception. Elle est venue, on l'a engagée. Ce soir, on va approuver son engagement officiellement. Elle est encore là, puis elle vient les jours où Nathalie Bellin ne peut pas être là parce que c'est progressif. Aussitôt que Nathalie va être avec nous à temps plein, Sylvie, son contrat va prendre fin. Alors, qui nous propose une résolution qui va permettre à Joanne, comme supérieure immédiate, de signer l'entente de service avec Sylvie? Michel, Yves nous propose ça. Michel, t'es d'accord?
Oui.
Barthélémy, ouais, j'ai dit Yves nous propose ça. Barthélémy, t'es d'accord?
Oui.
Louis?
Je suis pris par surprise. Oui.
Une fois de temps en temps, j'inverse.
Ben oui.
Être sûr, vous restez réveillé.
On est réveillé.
Louis, ça te va?
D'accord.
André?
Ça va.
OK. On est rendu à 6.2, l'embauche de Pierre. Alors, Pierre devient, en étant DG, il devient notre représentant officiel auprès de la Cour municipale de la MRC, si jamais on a besoin de défendre quoi que ce soit. Il devient aussi notre représentant auprès des gouvernements provinciaux et fédéraux pour ce qui est de sa job, pour ce qui est à faire dans le cadre de sa job. Comme je le disais, il va être autorisé à signer les chèques. Alors, et c'est moi qui a signé son entente d'embauche. Alors, qui nous propose d'embaucher Pierre? André Lefebvre. Merci, André. Louis, ça te va? Louis, ça te va?
Louis, oui.
Louis.
D'accord.
Bart.
Oui, d'accord.
Michel?
Oui.
Yves?
D'accord.
Bon, hein, t'es là sur le payroll.
Bravo, Pierre.
Oui. Tout à fait opportun, une main d'applaudissement. Merci, tu nous donnes un grand coup de main.
Bien, merci de votre accueil. Puis à l'heure actuelle, c'était très bien, même avec les employés, c'est parfait, ça va, ouais. Ça va très bien.
Bien, Clément?
Ça va bien.
Ah, OK, alors on est rendu maintenant à la nomination de Joanne comme directrice générale adjointe des services administratifs et greffière par intérim de la municipalité. Qui nous propose ça? Louise. Louise, ça te va?
Oui.
André?
Oui, ça va. Oui, ça va.
Barthélémy?
Oui.
Michel?
Oui.
Yves? Oui. Alors, on passe maintenant à la section. On n'a rien sous sécurité publique pour ce soir. On passe à travaux publics. Là, je vais vous glisser un petit mot d'un projet là, qui nous est imposé par le ministère de l'Environnement. Je ne sais pas si ça a jamais été discuté ici en séance publique. Le ministère de l'Environnement il a changé sa réglementation dans le cadre de sa stratégie québécoise en économie d'eau potable, qui impose aux municipalités d'installer des compteurs d'eau quand la consommation annuelle par habitant dépasse, si ma mémoire est bonne, 138 litres par année. Mais je ne suis pas sûr du chiffre, là. Mais en tout cas, il y a une norme. Il y a une norme qui ne doit pas être dépassée. Non, 138 litres, ça ne marche pas. Par jour. Par jour. Anyway, on dépasse la norme à Saint-Mathieu. Donc, on est obligé d'installer des compteurs d'eau. On n'est pas obligé d'installer des compteurs d'eau à tout le monde en même temps. Puis c'est pas parce qu'on installe des compteurs d'eau qu'il va y avoir une taxe d'eau. OK? On est loin d'être rendu là. Mais ils nous imposent, on n'a pas un mot à dire, on doit installer des compteurs d'eau parce que si on n'installe pas, ils nous coupent les subventions provinciales pour tout ce qui touche à l'eau. Puis on a besoin de cet argent-là. Ça fait que les compteurs d'eau, il faut les acheter. Alors, ce soir, on se donne l'autorisation comme municipalité de retenir les services de...
Lecombe.
Plomberie Lecombe, qui nous a fait une soumission de 51 000 $ pour une trentaine de compteurs d'eau. 20 pour utilisation résidentielle, puis 10 pour des commerciaux. Ça ne veut pas dire qu'on va acheter 30, là. Mais on se donne l'autorité de le faire, puis on a un montant par compteur d'eau. En septembre, à la réunion de publique de septembre, on va venir avec un programme. La façon dont on va déterminer qui va devoir installer un compteur d'eau, on va en installer 20 pour la centaine de résidents qui utilisent de l'eau potable fournie par la municipalité. Puis, on a à peaufiner tout ça, là, parce que, tu sais, on peut y aller par tirage au sort, on peut demander qui sont volontaires, etc., etc. On va tout analyser ça, puis on va vous arriver avec un programme très précis pour le faire. Les gens qui ont des entreprises commerciales, eux autres sont obligés d'avoir des compteurs d'eau dès maintenant. Fait que c'est les résidentiels où on a encore de la marge de manœuvre, puis on va voir. Mais tous ceux qui ont des puits chez eux, oubliez ça, là. Il n'y a personne qui va aller installer un compteur d'eau chez vous, là. C'est pour ceux qui reçoivent le service d'eau potable de la municipalité. En En fait, ce soir, on gèle la soumission pour être certain qu'on ne payera pas plus cher. Puis on a décidé de prendre le gros modèle qui coûte quelques cents piastres de plus, où les données du compteur d'eau vont être transmises par Internet à la municipalité. Je ne viendrai pas dire qu'à la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, on est en retard. On est en avance sur Montréal. Fait que, qui nous propose? J'imagine que Louis, ça te tenterait, toi.
Oui.
Veux-tu
oui.
rajouter quelque chose à ça?
Ben oui, je voulais juste une petite précision. Tu as dit qu'il n'y a pas de taxe d'eau. Il y a une taxe d'eau, mais elle n'est pas à la consommation.
Ah, oui. Ben oui, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de taxe d'eau supplémentaire reliée à la consommation. Ouais.
Je propose.
Ça, là, c'est pour préparer... On l'a tous entendu, on l'a vu dans les journaux, aux nouvelles, là, qu'il y a beaucoup de municipalités au Québec qui commencent à manquer d'eau potable, puis ils n'en trouveront pas. Ils n'auront pas plus. Alors, ils vont devoir taxer la consommation pour réduire la consommation. Mais à Saint-Mathieu, on est loin de là, là.
Juste une petite précision supplémentaire. Le fait de ne pas, adhérer à ça, ça nous bloquerait sur le trois possibles de subventions telles que Primo. Oui,
c'est ce que je l'ai dit, je pense.
Non, je m'excuse.
Non, il n'y a aucune taxe de rattrapage à ça. OK? On est obligé d'en installer 20 dans des résidences, minimum. Mais il n'y a pas... La municipalité, j'ai oublié de le dire, la municipalité, pour les 20 premiers, la municipalité va payer le compteur d'eau et l'installation du compteur d'eau. J'ai oublié de le mentionner.
Mais pour les questions, s'il vous plaît, avancez-vous au micro pour que ça puisse être enregistré et que les gens puissent les entendre chez eux. Merci.
C'est à nous de décider.
Je veux dire qu'ils n'auront probablement pas, puis on va installer une par la suite.
C'est-à-dire que les nouvelles, on pourrait, puis on va tous vous revenir avec les détails précis du programme en septembre. On pourrait. Les nouvelles constructions qui se creusent un puits, ils n'ont rien à voir avec ça. Là. Mais une nouvelle construction, par exemple, les nouvelles constructions dans le nouveau quartier ici de Feuille-en-Aiguille, la rue qu'on vient d'ouvrir, là, on pourrait exiger qu'il y ait un compteur d'eau. Mais on n'a pas décidé ça encore, mais c'est une des options qui est à nous. Par contre, je ne suis pas sûr que ce quartier-là va être bâti en entier d'ici la prochaine année, et ça nous prend 20 compteurs à installer d'ici un an. Fait que... Oui.
Daniel Vrion, Lac-Souris. Je voulais savoir, le budget, vous dites, c'est la municipalité qui paye, mais est-ce que c'est sur la taxe générale? C'est-tu sur le budget général ou c'est
oui.
la taxe? Ou c'est sur le budget de secteur?
Non, ça va être... je vais répondre à votre question d'une façon différente. Comme les 20 premiers compteurs d'eau, pour favoriser leur installation puis s'assurer qu'on va avoir accès à toutes les subventions qu'on doit avoir accès pour notre eau potable, on paye le compteur d'eau et l'installation. Et c'est donc... Tous les contribuables qui payent.
OK. Même ceux qui ne sont pas éligibles par ça.
Exact.
Parce que exact. Je pense que l'eau, c'est sectoriel et non pas général.
Mais ce n'est pas une taxe d'eau, là.
Non, c'est pas une taxe, mais c'est une dépense sectorielle.
Oui. Oui.
Que vous voulez envoyer sur le général.
Oui, parce que on parle, disons, dans le plus, 50 000 $ sur un an, deux années financières. Ben, on parle d'une coupe de piastres par personne.
Là. Peu importe le montant, c'est un principe. Là. C'est un ouais. principe. C'est sectoriel, puis c'est le général qui paye.
On va y penser. On va continuer d'y penser. Alors, j'ai Louis qui me proposait ça.
C'est moi, mais je ne sais pas si t'as-tu donné le montant. 51 642,25 plus oui. taxes.
Ça, c'est quand on aura acheté les 30 compteurs, puis on ne sait pas quand ça va être. Mais on va commencer à avoir une idée à l'automne quand on va avoir une proposition à faire aux citoyens qui sont desservis par l'eau potable. Bon Dieu, je ne me souviens plus. Louis, tu nous as proposé ça, toi, puis on l'a adopté. Oui, OK. Bon, alors, on passe au suivant, 8.2, travaux de ressources.
On va voter.
Alors, je viens demander si on avait voté, mais il dit oui.
On n'a pas voté.
Bon, Louis a proposé, puis on a été interrompu dans notre vote.
Oui.
Louise, est-ce que tu supportais ça?
Oui.
André?
Oui, d'accord.
Yves.
Oui.
Michel.
Oui.
Barthélémy.
Oui.
Bon, ça y est, c'est officiel. En 8.2, comme vous le savez tous, à chaque année, on a une taxe municipale qui est pour le... Je ne sais pas comment ça s'appelle dans votre compte de temps. Je pense qu'elle s'appelle le fonds de roulement, je ne sais pas trop. Mais ça sert à faire du resurfaçage sur les routes qui sont propriété de la municipalité. C'est autour de 200 000 $ par année qu'on met sur le resurfaçage. L'année dernière, il y a des travaux qui avaient été faits sur le chemin principal en face de l'auberge, justement. Et il y en a qui ont été faits sur le chemin Saint-Joseph. Cette année, on n'est pas encore... Tout ce qu'on décide ce soir, c'est de faire des appels, de demander des soumissions à des entrepreneurs. Ce qu'on leur propose cette année, c'est de faire 3 sections sur le chemin principal. On va finaliser le bout qui est fait devant l'auberge Saint-Mathieu. On va le rendre jusqu'au pont. On va faire la côte, qui est maganée pas mal. Quand on passe le pont, on s'en va vers le lac Souris. La curve, on va faire sur une centaine de mètres. Et la troisième section, c'est la petite côte qu'il y a sur le chemin principal juste avant d'arriver à Saint-Édouard. Tu sais, à la fourche, chemin principal de Saint-Édouard.
Lac Trudel.
Oui, juste avant le lac Trudel. Cette côte-là est terrible. Fait que c'est ce qu'on a trouvé qui était le plus urgent, ces 3 sections-là, en se disant le chemin principal il est utilisé par la majorité des gens qui vivent ici. Fait qu'on va commencer là où il y a du trafic. Et c'est ce qu'on veut faire, mais on va décider ce qu'on va faire quand on aura les soumissions, on va voir comment ça nous coûte. Parce qu'il faut rester dans notre budget de 200 000. De toute façon, quand va venir le temps d'engager un entrepreneur pour faire les travaux, on va savoir exactement ce qu'on va faire, puis on va revenir devant vous lors d'une séance publique pour approuver ce contrat-là. Alors, qui nous propose ça? Louis, ça te tente-tu encore?
Oui, je vais proposer.
Louise, es-tu d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord.
Merci, Louise. André?
Je suis d'accord.
Yves, je m'excuse, je ne t'avais pas entendu. Tu vas proposer le prochain. Michel?
D'accord.
Et Barthélémy.
D'accord aussi.
En 8.5, on achète une petite benne à bascule pour les travaux publics qui va aller sur le gros pick-up Dodge 350. On a fait faire des soumissions. On a eu une qui a été qui a rencontré nos normes au montant de 11 828 $ qui est équipement champagne. Alors, qui nous propose ça?
Propose.
Et voilà. Michel, d'accord?
Oui.
Bart?
Oui, c'est beau.
Louis?
Oui, d'accord.
Louise?
D'accord.
Et André?
D'accord.
Finalement, on passe au point 9. On s'en va en urbanisme. On a moins de stock que d'habitude. Je vous explique ça rapidement. En fait, on a 3 résolutions à passer. La première, on a eu une demande de dérogation mineure pour l'implantation d'un conteneur derrière une résidence sur le chemin Saint-François. Ils vont recouvrir le conteneur de vinyle et il est caché au fond du terrain en arrière de la maison. Le problème n'était pas là. Le problème, c'est que notre règlement autorise des conteneurs de 6 mètres maximum, puis ils voulaient avoir un très gros 12 mètres. Ça a passé au comité de consultation en urbanisme. Ils nous ont fait une recommandation positive. Et on a décidé de l'accepter. Alors, en conséquence, qui nous propose ça?
Moi.
M'excuse, avant de proposer, il faut demander s'il y a des gens qui se prononcent.
Ah oui, quand il y a des dérogations, je m'excuse, je suis encore sur une courbe d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dérogation mineure-là?
Claude Frigon. Non, c'est juste un commentaire. J'appellerais ça une dérogation majeure, moi. Passer du double de 20 mètres à 40 mètres. Je trouve qu'on ne va pas dans la bonne direction. Puis, c'est vous autres qui... décision appartient au conseil, c'est vous autres. Mais ce qui est bon pour Pierre est bon pour Pitou, c'est que ça rouvre la porte à d'autres. C'est rien qu'un commentaire.
Merci.
40 mètres, c'est quelque chose, c'est laid.
C'est 12
40
mètres.
Pieds.
Un 40 pieds.
Alors, mais il ne sera pas visible du chemin, M. Frigon. Alors, nous, comme conseil, on a décidé de l'autoriser et c'est Yves, tu m'as proposé ça? Michel me propose ça. Barthélémy, es-tu d'accord?
Oui.
Yves?
Oui.
André?
Oui, d'accord.
Louise?
Oui.
Et Louis?
Oui.
Comme à chaque année, on est rendu à 9.2. Là, on fait un dépôt de règlement, le numéro 2026-06. C'est un règlement sur les infractions pénales générales et autres moyens applicables à la Sûreté du Québec. Donc, c'est les tarifs qu'applique l'Hydro-Québec sur le ticket. Ils ont fait des augmentations de certaines infractions. Ce projet de règlement-là se ramasse dans toutes les municipalités de la MRC. Chaque municipalité l'adopte pour autoriser la Sûreté du Québec à charger ces montants-là sur notre territoire. Pourquoi? Parce que ces montants-là nous reviennent comme municipalité. Fait que ce soir, on fait le dépôt du règlement. On va faire la première... c'est un avis de motion pour que le règlement est déposé. Et on va revenir le mois prochain avec le... Ce ne sera pas l'approbation, il faut y aller en deux temps aussi, je crois. Avec le règlement. Ça, c'est une fois. Le règlement qu'on fait, nous, c'est deux fois. Alors, ce règlement-là va être disponible sur le site de la municipalité le plus tôt possible pour des gens qui voudraient le consulter. Mais c'est purement là, la valeur, c'est l'actualisation de la valeur des infractions. C'est pour ça que ça nous coûte plus cher quand on ne fait pas notre stop, là. Alors, on est rendu à la... Oui.
C'est pour le normaliser aussi, la réglementation.
Alors, je vais demander à un conseiller de nous déposer ça, cet avis de motion-là. Qui est intéressé à faire ça? André, nous faisons.
Moi, je m'ai déposé l'avis de motion, puis ce règlement-là est changé pour être uniforme dans les 17 municipalités pour être appliqué par la Sûreté du Québec.
Parfait. Louise, es-tu d'accord avec ça? Ah, bon, ben oui. On va finir par l'avoir. Oui, dans le procès-verbal, ça devait être adopté. Mais en fait, c'est juste le dépôt. On va l'adopter dans un mois. Puis, entre-temps, vous avez l'occasion de le consulter. Alors, on est rendu à la résolution 9.3 qui vise l'arrêt de la procédure de la démarche d'obtention d'un paysage humanisé. Qui voudrait nous proposer l'adoption de cette résolution?
Je le propose, M. le maire.
Merci, André. Louise, es-tu d'accord? Et j'avais dit au conseiller que s'il voulait expliquer la raison de leur appel, il était plus que bienvenu de le faire. Ça fait que... S'il y a des conseillers qui veulent vous expliquer pourquoi ils votent dans un sens ou dans l'autre, je pense que la démocratie gagne. Louise, est-ce que tu es d'accord avec ça?
Louise ou Louis?
Louise.
Oui, je suis d'accord.
Louis.
Ben moi, je vais expliquer mon vote. J'ai cru et je crois toujours que le statut de paysage urbanisé est un outil, un très bon outil pour... la protection de la biodiversité l'adaptation au changement climatique. Mais ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas le remède absolu là, qui permet de contrer les menaces à la biodiversité et qui permet de contrer l'insouciance face au changement climatique. C'est pas le remède absolu, c'est un... Pour moi, c'est un engagement collectif dans ce sens-là. Et ce que j'ai senti et ce que je ressens, c'est qu'au cours des derniers mois, des dernières années, il n'y a pas eu d'engagement collectif dans ce sens-là. Il y a eu plus de la dissension et de la division là-dessus. Et ça, je pense que ce n'est pas bon pour la communauté. Dans ce sens-là, moi, je pense que... mon vote va aller dans le sens de ce que je pense qui est bon pour la communauté. Et ce que je pense qui est bon pour la communauté, c'est d'essayer de faire disparaître cette dissension-là et cette division-là. Je pense qu'il y a d'autres outils, on en a parlé, il y a des outils réglementaires, des outils techniques. Par exemple, quand on grossit un ponceau, c'est une forme d'adaptation au changement climatique. Quand on met une barrière pour empêcher la tortue des bois de traverser le chemin Saint-François, c'est une façon de préserver la biodiversité, ou en tout cas la tortue des bois. Fait qu'il y a des moyens techniques, il y a des moyens administratifs, prévoir des budgets pour différentes actions. Il y a d'autres actions collectives qui peuvent être prises. Il y a des actions réglementaires, des politiques, des choses comme ça. Alors, dans ce sens-là, moi, je, 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 je favorise qu'on ne poursuive pas la démarche de paysage humanisé pour éliminer cette... pas éliminer. Je ne pense pas que demain matin, tout le monde va être content. Mais je pense que si on poursuit dans la démarche avec une demande de reconnaissance qui va se faire dans 1, 2, 3 ans, et ensuite un plan de conservation qui va prendre 2 ans, bien, on va continuer pas chicaner, mais en tout cas, avoir de la dissension là-dessus. Puis pour moi, ça ne vaut pas la peine. Alors, je vote pour l'abandon de la démarche.
Yves?
Moi, je suis d'accord pour qu'on abandonne le projet parce que je pense que les gens de Saint-Mathieu sont sensibilisés à l'environnement. Dans le fond, je pense que ça fait partie des valeurs des gens. Même si on ne fait pas le paysage humanisé, tous les gens qui sont à Saint-Mathieu sont pour la protection de l'environnement, dans le fond. On fait toute attention à l'environnement. Fait que moi aussi, je souhaite qu'on abandonne le projet.
Merci. Yves, Michel.
Moi aussi, je veux qu'on abandonne, mais pour les mêmes raisons que M. Tremblay, je trouve que ça serait mieux qu'on arrête pour l'instant puis qu'on continue sur d'autres choses.
Merci, Michel. Barthélémy.
Oui. Alors, moi, de mon côté, vous ne serez pas surpris. Je m'oppose à la résolution et j'aurais personnellement souhaité qu'on poursuive la démarche d'obtention du statut de paysage humanisé pour plusieurs raisons. Monsieur le maire a parlé tantôt d'une volonté de définir certains objectifs à venir pour la protection de la biodiversité et la lutte au changement climatique. Si on va dans cette direction-là, évidemment, je serais pour, mais à ce moment-là, je vois un peu un non-sens parce que le paysage humanisé, c'est ça que ça proposait. Donc, si on va dans une autre démarche, on va le faire sans la subvention de 250 000 $. C'est une démarche qui va éventuellement se concrétiser, se transformer en règlement, donc une potentielle surréglementation qui était dénoncée par le camp du non durant les consultations. Donc on se retrouve avec une démarche qui peut être très similaire, avec les mêmes conséquences en temps de ressources, en dollars de budget que ça pourrait occasionner. Donc c'est un peu... En tout cas, je ne suis pas certain de bien comprendre où on s'en va avec ça. Puis à la suite des consultations, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que j'ai proposé, ou j'ai fortement suggéré dans nos discussions avec le Conseil, qu'on fasse un vote élargi par Internet, ce qui avait été proposé comme une option possible. Selon moi, je ne sais pas quelle aurait été l'issue de ce vote-là, mais je pense que ça aurait été un exercice démocratique plus complet et ça aurait donné la chance d'avoir une plus grande représentativité, une représentativité plus juste au niveau de la population pour ce vote. Mais ça a été refusé par le Conseil. Donc, ça fait pas mal le tour.
Merci, Bart. Alors, on va maintenant passer à la section 10, hygiène du milieu, où on va accepter d'octroyer des contrats de service à une firme d'hydrogéologie pour aller nous chercher toute l'information qu'on a besoin pour le puits numéro 3 et le puits numéro 2 pour s'assurer qu'on soit capable de prendre une décision éclairée sur l'avenir du service d'approvisionnement en eau potable de la montagne. Alors, en 9.1, c'est les travaux qui sont nécessaires pour le puits numéro 2. On parle de frais de services professionnels qui... la firme d'hydrologie Arrakis, qui va faire les travaux, supervise tous les travaux, y compris les forages. Le contrat nous coûte 17 821 $ avant taxe. À ça, il faut rajouter un 4 000 $ pour des forages qui vont être faits par une firme de forage qui va, elle, être engagée par la municipalité. L'ensemble du coût, donc on parle de 22 000 $ grosso modo, va être payé à même la TEC, la subvention qui est le retour des taxes que le gouvernement provincial nous fait. En neuf, alors, j'imagine, Louis, j'aimerais ça que tu nous proposes ça, toi.
Ben oui, je vais le proposer.
Merci, Louis. Louis, t'es d'accord?
Oui, d'accord.
André?
Oui, d'accord.
Barthélémy?
Oui.
Michel?
Oui.
Yves?
Oui.
Alors, voilà pour le puits numéro 2. Le puits numéro 3, même chose, test de pompage. Là, ça va durer de 5 à 8 semaines. On va envoyer des échantillons d'eau dans un laboratoire certifié par le ministre de l'Environnement, puis ils vont suivre les paramètres de l'eau surtout les fluorures, pour voir comment va se comporter l'eau avec un taux de pompage qui est la moitié de la capacité du puits. Fait que ça, ça coûte pas mal moins cher. On parle de 9 657 $ pour Arrakis qui surveille les travaux, procède à l'installation d'une pompe, etc. De notre côté, là, il va falloir... Les analyses d'eau vont être payées 2 200 $ par la municipalité et 4 700 $ d'équipement, dont une bonne pompe pour faire les tests de pompage. Le puits numéro 3, il n'y a pas de pompe dans ce puits-là. On a juste à descendre une pompe. Puis pendant 5 à 8 semaines, vous allez voir de l'eau qui va sortir de ce coin-là puis va s'en aller jusqu'à la rivière Shawinigan. C'est de l'eau parfaite. Si ça se trouve, ça va améliorer la qualité de l'eau de la rivière Shawinigan. Ah oui, oui, oui. Oui, merci. Oui, petite erreur de frappe. Alors, on est dans l'hygiène du milieu, point 10. Alors, le puits numéro 2, c'était le 10.1. Et le puits numéro 3, c'est le 10.2. Et maintenant, je me transporte
Attends,
il faudrait peut-être l'approuver aussi, celle-là. Là. Alors, qui va nous proposer ça?
Je vais le faire encore.
Louis, tu y vas encore?
Je vais le proposer encore. Juste une petite précision, justement. Si au bout de 2 semaines ou 3 semaines, on s'aperçoit que les fluorures, ils restent élevés, ben on ne va pas continuer pendant 8 semaines.
C'est vrai. J'ai oublié de le mentionner. On ne sait pas combien de temps. Au maximum, 8 semaines. On va, si ça ne bouge pas, on va sauver de l'argent, puis on va se concentrer sur l'option du puits numéro 2. Alors, pour le puits numéro 3, en 10.2, qui Louis nous a proposé ça. Louise, est-ce que ça te va?
D'accord.
André?
Oui, d'accord.
Barthélémy?
Oui.
Michel?
Oui.
Yves?
D'accord.
Alors, maintenant, on s'en va à notre dernière discussion avant une période de questions. On s'en va au point 13.1 en autre sujet. Louis, ça te tente-tu de présenter ça, toi? Parce que Louis a travaillé pas mal là-dessus.
Je peux faire ça. En fait, l'idée, c'est qu'on veut avoir une vision d'aménagement global de notre espace public. L'espace public étant ce qui est en arrière de, ici, en arrière de l'école, en arrière de l'église, en arrière de l'ancien presbytère, notre espace public là-bas, entre le chemin des Iels et le chemin Langlois. Avoir une vision globale de comment on veut l'aménager. On a fait des interventions, moi, ce que je considère des belles interventions, mais j'étais sur l'ancien conseil, alors je trouve qu'ils sont belles. Mais on a fait des interventions, mais on les a faites un petit peu à la pièce. Alors, on veut avoir une vision globale de comment aménager tout ça. On a fait, vous le savez, on a fait une demande pour avoir des subventions pour faire une patinoire couverte. Bon, cette patinoire-là, si on obtient des subventions, bien, c'est sûr qu'on ne va pas la construire juste ici à côté du centre communautaire. Il faut penser où on la mettrait, puis tout ça, puis les autres interventions qu'on va faire. On se fait demander plein de choses, d'avoir un volley-ball, d'avoir des espaces pour le pickleball, des trucs comme ça. Et les autres aménagements qu'on va avoir, est-ce qu'on veut avoir des espaces de pique-nique, des choses comme ça? Alors, l'idée, c'est d'avoir une vision globale de l'aménagement de ces espaces-là. Pour ça, on a demandé des soumissions. Des propositions. En fait, on a invité 8 firmes à nous soumettre des propositions. Il y en a 7 des firmes d'aménagement d'espace public et d'architecture du paysage. Il y en a 7 qui nous ont donné des propositions. On a fait une évaluation. Il y a un comité qui a travaillé pour faire une évaluation de ces offres-là, une évaluation qualitative auquel un pointage a été attribué. Et dans ce pointage-là, sur 100, il y a 30% qui est une pondération au prix soumis par rapport au prix du plus bas. Alors, les soumissionnaires qui ont présenté son paysage dans l'ordre de du pointage élevé, là, projet paysage 85, Arpent 84.3, oui, Martin Laferrière 83, option aménagement 82.8, rue principale 81, au paysage 81, puis EXP 61.7. Il était vraiment beaucoup plus cher, donc ça a affecté beaucoup leur note. Fait que donc, ce qui est proposé, c'est d'octroyer le contrat à Projet Paysage au montant de 21 550 $ plus taxes. Puis une partie de, 80% de, ce montant-là va être financé par la politique de soutien au projet structurant, le PSPS de la MRC. Le reste, c'est la municipalité qui paye.
Ce qui est intéressant peut-être à signaler, c'est que dans toutes les 7 soumissions qu'on a eues, le moins cher était à 19 000, puis la plus chère était à 22 23 000. En tout cas, ils étaient tous dans la même braquette de prix. Ça, c'est le fun quand on reçoit ça.
Sauf un.
Sauf un. Sauf un qui était à 30 quelques.
31 000.
Okay. Et il n'a pas fini fort.
Alors, oui, non.
Alors, tu veux le proposer, Louis? Oui. Parfait. Louise, es-tu d'accord avec ça?
Oui.
André?
D'accord.
Yves?
Oui.
Michel?
Oui.
Barthélémy?
Oui.
Alors, le contrat va être octroyé incessamment, puis on va avoir les résultats à l'automne. Puis à l'automne, on va avoir les résultats aussi de la demande de subvention pour la patinoire. Puis on va tout mettre ça dans le même pot, puis on va essayer de travailler quelque chose qui fait du bon sens, puis d'avoir un cadre dans lequel intervenir dans notre parc régional là, pour les prochaines années. Le plan qu'ils vont nous soumettre, là, ça va comprendre plein de choses. Puis il y en a qu'on va se dire, on n'aura jamais les moyens. Il y en a qu'on va se dire, oui, c'est le fun, faisons-le. Mais c'est un plan qu'on va mettre en œuvre dans les prochaines années. On ne fera pas toute l'année prochaine. On va investir selon nos moyens pour améliorer le parc, mais on va avoir une vision d'ensemble. On va savoir où on s'en va, puis on va avoir juste des étapes à franchir dans le temps. Alors,
j'aurais un sujet, moi, à rajouter.
Dans la mention des élus?
Autre sujet. C'est,
autre sujet, OK. OK. Mention des élus, Michel. Mais c'est quoi? C'est un sujet d'information?
Oui, pour la tour.
Ah, bien, ça, c'est mention des élus. Alors, on va nous rendre au point 14. On va demander à Michel, comme élu, de nous mentionner quelque chose.
Oui, pour la tour, il y en a beaucoup qui posent des questions. La tour est toute installée, tout est prêt. Il reste juste l'Hydro-Québec à collecter la tour. Puis le Bel allait formater... le système pour que tout fonctionne. Fait qu'on n'a pas la date précise, parce que c'est eux autres qui décident, mais la tour est prête. Tout est monté, tout est installé. Il reste juste à attendre l'Hydro-Québec et le Bel pour finaliser le tout. Fait que j'ai pas de date à donner pour l'instant.
C'est bonne nouvelle. On parle de la tour de télécommunication pour les cellulaires.
Oui, c'est ça, mais elle va être installée. Ça devrait être prêt avant, mais c'est le maximum. Oui, ça, c'est le maximum.
Je pense que, tu sais, si tu regardes la séquence, Claude, il n'y a pas de courant sur la tour. C'est que c'est l'hydro qui bloque, là. C'est l'hydro qui doit venir brancher les fils sur les lignes. Et après ça, Bell va être capable de formater et de la rendre fonctionnelle. Dès qu'hydro vient, ça va aller vite, je pense. Parce qu'il n'est pas dit que si on attend encore une couple de semaines, que y a pas on a un agent de liaison à Hydro-Québec pour les municipalités. Là. Ça se peut qu'on y lâche un petit coup de fil. Présence à la séance,
la
on est...
La mention des élus,
vous? Oh oui, c'est vrai. C'est vrai. Louise, toi aussi, tu avais quelque chose. On t'écoute, Louise.
Ah, j'ai une liste, là, tu sais. Je voulais souligner, comme municipalité, on a été invité... que la pépinière du parc soulignait le 10e anniversaire du labyrinthe coureur des bois. Même si, en tout cas pour eux, c'est quand même quelque chose dans la municipalité qui est une activité qui est récréo-touristique, je dirais. C'est bien sûr que le tourisme, c'est large partie des personnes qui y vont. Et je pense qu'il met tout en œuvre pour développer ce concept-là. Puis il y a une nouveauté cette année. Il va y avoir un conte. C'est une nouveauté qui est immersive. Le conte du coureur des bois. C'est vraiment passionnant. Fait que même si on n'est pas des touristes, je nous invite quand même à aller faire un tour. Ça vaut le coup. Je sais qu'il y a des personnes dans la salle qui étaient aussi à ce lancement. Je pense que c'est une autre... belle initiative et une belle création dans notre municipalité.
Avant que tu passes à ton deuxième sujet, t'as-tu... OK, je vais juste rajouter quelque chose du coureur des bois.
Je veux souligner aussi, la municipalité, la fête nationale. Fait que je tenais à, je tenais à dire à la fois à tous nos employés municipaux qui ont mis la main à la pâte pour faire cet événement-là, particulièrement Katia Fennel-Martin. Je pense que tout a été mis en œuvre. La météo nous a empêchés un petit peu de commencer à l'heure prévue, mais je pense que c'était sa troisième année. Il y a sûrement des choses à améliorer, fait que si vous avez des idées pour d'autres années, c'est bienvenu, mais c'est un événement important, fait que merci aux personnes et à ceux que je n'ai pas vus qui ont participé. Et je termine pour vrai, parce que là, j'ai vu ça passer sur les Facebook, là, notre belle FADOC, qui organise des activités tant l'hiver que l'été. Puis là, elle a ouvert ses parties de pétanque le jeudi, à toutes les après-midi. Je sais que c'est ouvert aux membres, mais aux non-membres. Ah, ben, OK. Fait que là, ils ont décidé de maintenir ça la semaine dernière, avec la canicule, facteur 40, chapeau. Puis merci d'initier des événements comme ça pour la communauté. J'ai fini.
Merci, Louise. Je voulais juste, je ne suis pas capable de me retenir. Le coureur des bois, ils vont être le coup du mois de toute la MRC pour le mois de juin. Ça va être annoncé la semaine prochaine. Là. Fait que leurs efforts ont été même reconnus au niveau de la MRC. Puis je ne peux que renchérir les félicitations à toute l'équipe qui a travaillé sur la fête nationale. Le taux de participation n'était pas aussi élevé qu'on l'aurait souhaité. Il y avait du monde, mais il me semble que sur la population totale, quand on fait une grosse fête comme ça, on pourrait espérer un petit peu plus de gens. Fait que pour l'année prochaine, on va peut-être travailler plus en collaboration, à écouter toutes les catégories de citoyens, les jeunes, les moyens, les vieux, puis essayer d'adapter notre journée, cette journée-là, à tous les goûts pour favoriser une participation supplémentaire. On verra. En tout cas, c'est un engagement, là, mais on verra si ça nous mène plus loin, mais je pense que c'est souhaitable. Oui. Ben oui.
Mais ça, c'était souligné aussi. On a voulu encourager, je sais que c'était encouragé, que c'était Marguerite l'année dernière, là, qui était son album, puis cette année, on voulait encourager des nouveaux groupes, des groupes qui sont en émergence, je dirais. Puis, d'ailleurs, ils sont allés au festival, à Festivois, à ouais. Trois-Rivières aussi.
OK.
Petite chose qu'on devrait, je pense, rappeler à chaque séance, de rappeler aux gens qui ne sont pas encore abonnés à l'infolettre de la municipalité, de le faire via le site web de la municipalité. Parlez-en, si vous l'êtes déjà abonné, parlez-en à vos amis, à vos voisins. C'est un des bons moyens de communication qu'on a pour rejoindre le monde et être tenu au courant de ce qui se passe dans notre communauté.
Bon point, Barthélémy. Bon point. Alors, je serais rendu au point 15. On a 44 personnes qui ont assisté à l'Assemblée ce soir. Et finalement, point 16, période de questions. Alors, j'ouvre le micro de la salle à toute personne, tout participant qui voudrait poser des questions sur quelque sujet que ce soit.
Bonsoir, Martine Laure, Lac-Souris. Vous aviez prévu d'embaucher ou de renouveler le contrat pour la personne qui s'occupait de l'inspection des bandes riveraines.
Oui.
Est-ce qu'elle est rentrée en poste?
Oui, depuis lundi dernier, elle est rentrée le même jour que Pierre.
OK. Et puis, est-ce qu'elle va retourner sur les anciennes inspections, sur les personnes qui étaient non conformes? Est-ce qu'il va y avoir un travail de fait à cet effet-là?
Ben, je vais prendre ça comme une suggestion. Ça ferait du sens qu'il y ait une vérification qui soit faite pour les gens qui n'étaient pas conformes. Mais j'avoue que je ne contrôle pas son horaire non plus, que son système de travail, mais le gars qui va s'en occuper, il est assis à côté de moi.
Parce que
ils vont prendre ça comme une suggestion.
D'accord. Parce qu'en principe, s'il ne recèque pas, il pourrait être susceptible d'avoir une mise en place de leur bande riveraine et aussi des amendes qui viennent avec ça. Donc, voilà.
Merci.
Peter Mills, Lac Goulet. Moi, je voudrais vous faire un commentaire sur vos compteurs d'eau. Quelqu'un en a parlé tantôt. Je voudrais... Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Moi, je m'entends, mais bon. Je voudrais passer un commentaire sur les compteurs d'eau. Le compte d'eau peut être important. c'est quand même un secteur. Je pense qu'on devrait faire tout ce qu'il faut pour donner les taxes au secteur d'activité. Parce que je ne vois pas en quoi les compteurs d'eau vont être pertinents aux gens qui ont des puits. Et même si le montant n'est pas important, ce serait naturel, je crois, de le faire payer aux gens qui vont l'utiliser. Merci.
Oui, c'est une idée qu'on va prendre en considération, mais je rajoutais quand même le point suivant. En bout de ligne, les compteurs d'eau, dans plusieurs années, on va espérer que ça va nous permettre de réduire la consommation. Hein? Puis je ne dis pas qu'il y aura une taxe nécessairement à la consommation, je dis que l'objectif, c'est de réduire la consommation sur le long terme. Si on réduit la consommation, on réduit la pression sur nos infrastructures. Puis nos infrastructures, tout le monde les paye. Nos infrastructures reliées à l'eau. Fait que, on fait un système d'eau potable avec la tech là, qui va nous coûter entre 500 000 et 1 million. C'est pas votre argent, ça? Oui. Ben oui, c'est nos taxes provinciales qui se ramassent là. Fait que, tu sais, il y a différentes façons de voir ça. On va les regarder, Peter, puis on verra quelle est la meilleure approche. Puis de toute façon, si notre approche retenue, quand on va vous la présenter, ne vous plaît pas, vous allez nous le dire.
Bonsoir à tout le monde au conseil municipal. Hélène Bergeron. Alors, je me demandais...
Vous pouvez baisser le micro un peu, vous mettre à l'aise. Ouais.
Je me demandais, habituellement, là, ça fait peut-être 27-28 ans que je suis là, je suis sur un chemin de terre. Et depuis le mois de mai, on aimerait bien ouvrir les fenêtres. Sauf que, jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas eu la bas poussière sur les chemins. Qu'arrive-t-il avec cette activité annuelle qui sert beaucoup aux citoyens qui
la bas poussière, le problème qui est
chemins de terre, puis je pense que chez vous.
Vous êtes dans quel coin,
Monsieur
vous?
Monsieur Gilbert, je suis au lac Magnan, sur le chemin Saint-Édouard, et vous allez savoir que sur ce chemin-là qui donne accès au lac Bernard, il y a beaucoup de pick-up, il y a beaucoup de quatre-roues, il y a beaucoup de toutes sortes de choses qui passent. Alors aujourd'hui, j'étais vraiment exaspérée. Parce que vous allez voir ma voiture, elle est au stationnement ici, là. Elle n'est vraiment pas propre. C'est pas parce que je veux garder ma voiture propre, mais c'est parce que j'aimerais profiter, comme tout le monde, qui habite sur un chemin asphalté, de pouvoir ouvrir mes fenêtres un petit peu avant la Saint-Jean-Baptiste. Monsieur Monette, allez, répondez-moi.
Normalement, c'est qu'ils passent avant, puis il y a eu comme un contretemps parce qu'ils ont passé la niveleuse. Puis il y a eu de la pluie après, puis la bas poussière, ils peuvent pas l'attendre.
Ça, cette excuse-là, je l'ai eue depuis plusieurs années. Plusieurs années.
C'est
moi, j'aimerais savoir si on pouvait améliorer ça.
Oui.
Parce que moi, au mois de mai, là, c'est de la poussière. Au mois de juin, c'est de la poussière jusqu'à temps qu'ils mettent la bas poussière.
Moi, je sais que le lac Souris va être fait la semaine prochaine, si la température le permet. Puis j'ose espérer que votre coin va être fait aussi, là. Mais je comprends, c'est un bon commentaire. Vous n'êtes pas la seule à souffrir de ça. Puis
soit le faire deux fois localement à certains endroits, parce que je pense que, M. Monette, si tu viens passer la journée en avant de chez nous avec ton chien, tu vas voir que tu vas être pas mal poussiéreux à la fin de la journée. Aujourd'hui, c'était vraiment dégueulasse. Puis je ne peux pas être sur le terrain. Et voilà.
Merci de votre commentaire. On va en tenir compte. Soyez-en assurés. Autre question, commentaire?
Claude Frigon, c'est concernant le budget de 200 000 pour le resurfaçage des chemins. On avait au budget, vous avez mis 4 ponceaux sur le chemin des pionniers. Est-ce que c'est toujours dans la mire ou c'est abandonné?
Il était inclus dans le 200 000, mais on avait aussi prévu d'utiliser une partie du fonds de la sablière. Fait qu'on a un petit peu plus que 200 000. Ils n'ont pas été oubliés, ils sont encore dans le PTI.
Au programme.
Oui. Mais j'essaie de me souvenir des quatre exactement, parce que pas certain qu'on va y faire les quatre cette année. Okay? On va en faire le plus possible selon nos moyens, là, mais on va vous revenir avec ça.
OK. Merci.
Bonsoir, André Version, Saint-Mathieu. C'est une relance encore, là. Le camion 350 que vous parliez, là, est toujours pas lettré. Il est ici depuis le mois de janvier, pas lettré encore.
Oui.
D'accord. Notre relance, c'est pas bien ben long, lettrer ça, là.
Pierre.
Une relance, c'est pour lettrer le camion 350 qui est acheté au mois de janvier, qui n'est pas lettré encore.
Je pense qu'il faudrait se faire faire du lettrage aimanté, là, qu'on colle d'une frappe comme les taxis.
C'est des stickers collés.
Non, mais en tout cas, ça pourrait être aimanté aussi, là, mais c'est un besoin pour que ce pick-up-là soit identifié à la municipalité. On essaie-tu, quand on va faire installer la nouvelle boîte, d'avoir du lettrage?
On va essayer ça. C'est le mieux qu'on peut faire. Oui.
Moi, ce concernant le petit parc à côté, je ne sais pas quel nom vous avez l'air à
dire. Pouvez-vous nous dire votre nom, s'il vous plaît?
Pardon?
Voulez-vous nous dire votre nom?
Mon nom est François Cossette. Concernant le petit parc à côté, anciennement, il y avait la bâtisse Lavaillosche qui était là. Ça serait peut-être bien bon d'y donner ce nom-là. Une suggestion comme ça. Il y en a qui doivent s'en souvenir de la Bayoche. Puis, je suis venu l'année passée à l'autre. C'était un autre conseil qu'il y avait. Je l'avais proposé. Ça avait l'air à s'aligner vers ça. Je ne sais pas, peut-être continuer. Puis, en tout cas.
Très bonne suggestion. Je sais ce que la valoche signifie pour bien du monde à Saint-Mathieu. Ouais. Moi, je ne l'ai pas connu, mais j'aurais aimé ça en connaître. Merci de votre suggestion. On est en train de faire faire l'étude là, pour l'aménagement du parc. Puis à un moment donné, il faudra se décider à y donner un nom, ce parc-là, puis je peux vous assurer que ce nom-là va être sur la liste des noms envisagés.
Merci beaucoup.
Alors, s'il y a... Oui.
René Lamy, j'avais fait une intervention il y a à peu près 3 mois qui avait un ponceau à changer au 2370 chemin de la Presqu'île. Il y a un mois, M. le maire, vous nous avez dit vous-même que vous êtes venu visiter le chemin de la Presqu'île et que vous avez vu des barrières aux côtés du chemin de la ville de Shawinigan. Vous êtes. Oui, mais depuis 3 mois, il ne s'est rien passé. On nous a dit à la municipalité qu'il y avait un manque de ponceaux, que les ponceaux sont back order. Mais là, c'est toujours la situation?
J'ai aucune idée. Je ne peux pas répondre à ça, mais Pierre vient de me dire qu'il prend ça en note, puis on va avoir une réponse à votre question. Okay. Ça, c'est celui, Yves, qu'on est allé voir ensemble sur le dessus de la côte. Hein? Oui.
Parce que
mettons que si on en fait un dans ce coin-là, là, lui, il va être pas mal prioritaire. Parce que lui, on ne peut pas rester comme ça pour le printemps
prochain. Les barrières sont là depuis 4 mois. Puis ouais. C'est de même à chaque printemps. La municipalité pose un petit tuyau de 4 pouces au niveau du chemin. Là, parce que le tuyau de métal, il est écrasé.
Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Disons que celui-là, on n'a comme pas le choix de faire de quoi avant le printemps prochain. Parce que
mais avant l'hiver, parce que bien que la charrue va passer, elle va tirer les barrières dans le champ, puis il va y avoir un taux béant dans le chemin.
Ce que je voulais dire, c'est que l'installation qu'on a là ne survivra pas un autre printemps. Ça fait qu'il faut le faire avant le printemps, donc à l'automne.
Merci, monsieur.
Merci. Merci.
Martine Nord. Je voulais juste vous mentionner qu'il y a la renouée japonaise qui empiète dans le chemin des pionniers. C'est rendu dans la route et puis ça bouche la vision quand on monte la côte entre le 1450 puis 1395 du chemin des pionniers. Donc, ça commence, puis ça frotte sur les autos. Oui, parce que ça vient à maturité puis ça devient énorme. Mais là, ça commence à boucher la vision quand on monte la côte.
Donc, c'est une question de sécurité, c'est ça que vous dites?
Oui.
On va demander à nos travaux publics d'aller voir ça incessamment.
D'accord. Merci.
Bonjour. Steve Bourassa, Lac des Érables. C'est moi. Bon. première chose, pour le paysage humanisé, ben, un, c'est sûr que je suis bien content. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont pas contents, mais je m'en dis, comme Yves a dit, Saint-Mathieu, on est pas mal. On est pour que tout le monde, mettons. Les faux sceptiques d'un lac, puis c'est juste pour l'environnement. Et puis, deuxièmement, j'aimerais ça savoir si la municipalité, dans l'avenir, va penser qu'au rang Saint-François, le pont, quand on va au 90, les gens de Saint-Mathieu doivent avoir vu ce printemps qu'il y a eu un réaménagement de ligne d'Hydro-Québec. Et puis, moi, je suis le génie civil. Je construis des ponts puis des barrages. Et puis, dans un avenir, je ne sais pas si tu étais au courant, Éric, mais le pont va être à changer un moment donné.
On parle-tu du pont qui est au-dessus de la rivière Shawinigan? Il est confirmé pour être rebâti.
Oui.
Je vais répondre à votre question, vous allez trouver ça intéressant. Le ministère des Transports nous a confirmé que ce pont-là va être refait en 2027.
Oui.
Puis je vais vous dire, on s'attendait à 2026, mais que ce soit en 2027, ça fait mon affaire. Pourquoi? Parce que comme ils vont rebâtir le pont, ils sont obligés de faire une voie de contournement. Puis ça va être le chemin principal jusqu'au chemin Saint-Paul, le chemin Saint-Paul jusqu'au chemin du Lagoulet, puis là, on revient par le coin du centre de service du parc.
Oui, bien, c'est ça.
Sur Saint-François.
Ouais.
Et ça, là, ça fait dur.
Oui, bien, c'est là que je m'en vais.
La 1,8 million qu'on avait demandé pour avoir... pour rénover le chemin principal du pont jusqu'à Saint-Édouard, on ne l'a pas eu pour la quatrième année consécutive.
OK.
Alors, j'ai appelé la directrice régionale du ministère des Transports à Trois-Rivières et je lui ai expliqué le contexte. Puis, je lui ai surtout fait comprendre que si on avait la subvention, ça ferait notre bonheur, puis peut-être le sien aussi, parce que la voie de contournement, le ministère des Transports, ils sont obligés de la mettre en état. Parce qu'il va y avoir des roulottes qui vont passer là-dessus, des gens à vélo qui vont aller vers le parc. Alors, ils sont obligés de s'en occuper. Puis quand ils s'en occupent comme ça, là, ils prennent ça sur leur propre budget. Tandis que le 1,8 million qu'on a demandé pour faire une bonne partie de ça, ça, c'est des subventions qui viennent du Conseil du Trésor. Ce qui fait que, c'est une femme intelligente, elle a vite compris, et elle me dit qu'il y a un inspecteur du ministère des Transports qui viendrait inspecter la voie de contournement. OK? Puis qu'il ferait des recommandations, puis qu'elle me rappelait. Alors, cet été, j'attends son appel. Dans le pire des scénarios, je pense que notre demande de subvention pour la rénovation du chemin principal entre le pont puis Saint-Édouard, il va partir du bas de la pile, puis il va monter vers le dessus de la pile.
C'est ce que mes contacts m'ont dit au MTQ. Exactement.
Ah bon?
Oui.
Vous en savez plus que moi.
Oui. Non, mais c'est ça, parce que, tu sais, même s'il y a la voie de contournement, si, mettons qu'on prend le chemin principal ici, puis on s'en va jusqu'au lac Trudel, même cette partie de chemin-là, qui va rejoindre, mettons, le pont en totalité, c'est quelque chose. On s'entend-tu, là, que tu vas pas te promener là avec une Porsche, là?
Quand j'étais jeune, on appelait ça un chemin de bœuf.
Ouais, c'est un gros bœuf, là, tu sais. Et puis, ben c'est ça. Et puis, j'en ai un autre aussi, c'est concernant au lac des Érables. Je demeure au lac des Érables. L'ancien conseil, il y a 3 ans, pas ton conseil, mais l'ancien conseil, avait payé une firme pour venir inspecter la calvette qui est en montant au lac des Érables. On a une calvette. Et puis, c'est drôle, cette journée-là, je ne travaillais pas. C'était le fun au bout parce que j'étais avec eux autres. Fait que la calvette est finie depuis ce temps-là. Puis on n'a jamais eu de suite à ça. Alors, je viens te le dire, la calvette du lac des Érables, je ne te dis pas de la changer demain matin, c'est pas ça que je dis. Mais je te dis que dans vos papiers, il y a une firme qui est, autrement dit, il y a une évaluation qui est faite, la caméra a été passée, la calvette est écrasée, le chemin n'est pas miné bord en bord de la côte. Ils ont fait des petites réfections d'asphalte, là, parce que ça se minait. Ouais. Mais à un moment donné, c'est parce que, tu sais, je veux dire, c'est encore une fois... C'est de l'argent de nos taxes à tout le monde. Mais c'était juste pour t'aviser.
Écoute, merci. Je ne sais pas quoi. J'entends parler de Ponceau et de Calvite depuis que j'ai été élu, mais c'est drôle, celle-là, je n'ai jamais entendu parler. Fait qu'on va se renseigner, puis on va regarder si on a quoi. Puis je pourrais venir à un moment donné où on peut t'envoyer un courriel pour te dire que dans les plans de la municipalité, j'ose espérer qu'il est dans notre PTI là, pour les trois prochaines années, mais on t'en reviendra là-dessus.
Ben, il n'y a pas de problème. Elle était polie.
Franchement, je te reconnais pas.
Une deuxième question, Hélène Bergeron. Je voulais savoir, parce que là, depuis le mois d'octobre dernier, on a eu les élections, on a eu la consultation publique et tout ça. Je voulais savoir, qu'est-ce qui arrive avec le dossier de la réserve de biodiversité? Je sais que c'est le ministère qui doit prendre la décision et tout ça, mais est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il est possible de faire un petit résumé de savoir, est-ce que le dossier va tomber en dessous d'une pile après les élections provinciales?
La réponse est oui. Il n'y a rien qui avance dans ce dossier-là à cause des élections. Les conseils régionaux comme Environnement Mauricie font de la priorisation de tous les projets qui ont été déposés en 2024. Parce que ça, ce n'est pas le gouvernement. Ils ont reçu une subvention pour le faire. Ça avance. Ils vont refaire rapport au gouvernement du Québec à l'automne. Et le dossier de Saint-Mathieu-du-Parc, de la réserve, fait pas partie de ce processus-là mm-hmm. du tout. Il est à part. Mm-hmm. Puis nous autres, on a toujours dit, on est pour la réserve. Puis je l'ai dit, peut-être vous n'étiez pas là, Mme Bergeron, là, mais je l'avais dit publiquement en réunion comme celle-ci, que aussitôt qu'on va avoir un nom d'un nouveau ministre de l'Environnement, après les élections, on va aller le voir. Pour essayer de faire en sorte que le dossier revienne au-dessus de la pile.
Moi, mais là, est-ce que...
En ce moment, ça ne donnerait rien.
Non, mais ils n'ont absolument rien fait. C'est qu'on a déposé le chose, c'est resté là, il n'y a pas...
Il y a eu la prescription administrative qui a été faite. Donc, les terres publiques sont toujours protégées. Oui. Mais à ma connaissance, ce qu'on m'a dit à un moment donné, quand je leur ai parlé, il y a peut-être 6 mois, c'est qu'ils avaient décidé de focusser, de mettre tout leur temps sur le processus général pour les 300, quelques, près de 400 projets qui ont été déposés en 2024, sont débordés. Mm-hmm. Puis je ne vous cacherai pas qu'il y a probablement eu un peu d'impact, des tumultes, des turbulences qu'il y a eu à Saint-Mathieu, leur ont peut-être fait comprendre qu'il était peut-être mieux de ne pas se presser. Mais moi, je leur ai fait savoir que le nouveau conseil était totalement en support de la réserve. Et on va faire des démarches officielles. Si j'en faisais aujourd'hui, ça ne donnerait rien. Parce qu'il y a des élections dans 3 mois. Mais après les élections, soyez assurés, on va vous tenir au courant puis on va vous le dire, les démarches qu'on va faire.
J'espère qu'ils n'auront pas perdu le dossier.
Je suis convaincu que non. Alors là-dessus, je pense qu'on va mettre fin à notre réunion du 6 juillet 2026. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite un bel été.